Vous êtes sur RTL.
8h. RTL dimanche soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir jusqu'à 19h15 avant de refaire le sport avec Isabelle Langer. À la une ce soir, l'opposition au mondial au Qatar qui se matérialise dans les villes après Strasbourg. Lille annonce à son tour qu'elle ne mettra pas d'écran géant dans les rues. Nous serons avec le deuxième adjoint de Martine Aubry. Et sur RTL au grand jury, l'insoumis François Ruffin demande à Emmanuel Macron de ne pas aller au Qatar pour cette Coupe du Monde. On reviendra d'ailleurs très largement sur ce grand jury de François Ruffin dans le MacPol à 18h30 sur les retraites. Sachez qu'il demande un référendum sur les affaires Catenins et Bayou. Il demande un peu de temps avant d'agir. Au menu d'RTL dimanche soir également, une nouvelle exécution la nuit dernière à Marseille. Un jeune homme de 21 ans abattu au fusil d'assaut par des hommes en scooter. La victime a voulu se réfugier dans un bar. Deux autres personnes ont été blessées. Les infos d'RTL dans un instant. L'actualité de ce dimanche soir, c'est aussi cette tragédie en Indonésie, l'une des pires catastrophes jamais survenues dans un stade de foot. Au moins 125 morts dans un mouvement de foule après l'envahissement de la pelouse et les tirs de gaz lacrymogène. Ça s'est passé à Malanga, à l'est de l'île de Java. Au Burkina Faso, après la chute du chef de la junte, des troubles et des violences qui ont notamment visé les intérêts français, notamment l'ambassade et l'Institut de France à Ouagadougou. Le bilan qui s'alourdit chaque jour en Iran, 92 morts selon une ONG depuis le début de la répression. En France, une nouvelle campagne de vaccination à l'occasion du retour du Covid. C'est à partir de demain avec les vaccins nouvelle génération. Ils sont adaptés à Omicron, on vous dit tout dans ce journal. Octobre rose depuis hier et pour un mois, la campagne annuelle pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds. On ira à Toulouse où un tatoueur a tatoué pendant 24 heures. Il vient de terminer son marathon qui financera la recherche. À suivre également cet agriculteur breton dont la récolte de haricots a subi les effets de la sécheresse. Amer, il a donc ouvert son champ au public pour une récolte à 1 euro le kilo. Résultat, carton plein. Le foot, la 9e journée de Ligue 1 cet après-midi. Victoire de Lorient face à Lille, 2-1. Victoire de Clermont à Ajaccio, 3-1. Match nul entre Troyes et Reims, 2 partout. Entre Auxerre et Brest, 1 partout. Toulouse a battu Montpellier, 4-2. Et depuis 17h, Monaco affronte Nantes. On en est où, Mickaël Lefebvre?
Eh bien, pour l'instant, Vincent, ce sont les Monégasques qui surclassent les Nantais. 3-0 à la mi-temps grâce à un but d'Embolo et un doublé de Wissam Ben Yedder.
Merci, Mickaël. À tout à l'heure, ce soir, 20h45. Lens Lyon à suivre dans RTL Foot. Le Quintet, c'était le prix de l'Arc de Triomphe à Longchamp, remporté par la jument anglaise Alpinista. Ordre d'arrivée, 14, 15, 2, 16 et 13. 18h30, donc, le MacPol, toute l'actualité politique, François Ruffin au grand jury, mais aussi Xavier Bertrand, le retour. Et puis, ce que pensent vraiment les Français de la réforme des retraites, on sera avec le sondeur Jean-Daniel Lévy d'Aris Interactive. 18h50, Alain Bougrain-Dugour refera la planète, avec ce soir les aventuriers de la mer. Et puis, le temps. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Vous nous annoncez du soleil et de la douceur presque partout demain.
Oui, alors demain matin, les températures auront un petit peu tendance à baisser puisqu'on n'aura pas de couverture nuageuse, mais c'est vrai qu'elles vont très largement grimper dans la journée. On va avoir un temps ensoleillé partout. Pas mal de brouillard quand même sur les deux tiers nord du pays au lever du jour. Ensuite, un temps très ensoleillé, une petite incursion nuageuse quand même sur le nord-ouest. Ça pourrait aller jusqu'à l'averse sur la pointe bretonne, mais rien de plus quant aux températures. On attend 18 degrés demain après-midi à Abbeville et Strasbourg, 20 degrés à Paris et Caen, 23 degrés à Biarritz, 24 à Bordeaux, 26 à Nîmes et 28 à Perpignan. Mmh. Une tendance limite printanière qui va tenir toute la semaine, figurez-vous, avec des températures qui vont grimper, sachant que la journée la plus douce, ce sera mercredi, 22 degrés de moyenne pour la moitié nord, 25 pour la moitié sud. Ça pourrait se dégrader le week-end prochain. En attendant, on en profite.
On n'est pas pressé. Merci pour ces bonnes nouvelles, Valérie.
RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
La nuit dernière a donc été marquée à Marseille par un nouveau meurtre qui ressemble fort, par son mode opératoire en tout cas, à un nouveau règlement de compte. Bonsoir Hugo Hamelin.
Bonsoir.
Vous êtes à Marseille évidemment pour RTL. La victime âgée de 21 ans a été tuée par deux hommes en scooter, mais il y a deux autres blessés. Hein.
Exactement, des rafales d'armes de guerre qui ont eu lieu à 5 minutes du Vieux-Port et de ses touristes en goguette au milieu des terrasses de bars du quartier Saint-Lazare. C'est un quartier paupérisé de Marseille. Les tueurs ne se sont pas embarrassés des nombreux témoins sur place hier soir vers 23h pour exécuter leur victime sous les yeux de ce garçon de 17 ans.
Il y avait deux mecs en T-Max, il a vu une Kalachnikov, il est venu, il a tiré sur le mec, il voulait se réfugier ici et ça lui a mis une balle, la balle fatale, et il est mort ici. Et ses autres collègues ont pris une balle. Pour moi, c'est un film là. Je suis dans un rêve, c'est pas un réel pour moi.
Touchés aux membres inférieurs, les deux garçons qui accompagnaient la victime sont ce soir tirés d'affaire. Une victime âgée de 21 ans qui a donc essayé de se réfugier dans un bar mais qui a été abattue juste devant. Connue uniquement pour quelques délits routiers, vraiment pas le profil d'un caïd. On peut voir ce soir des appâts de balles sur les devantures du bar à chicha, du coiffeur. Plus de 15 coups de feu en tout ont été tirés au pied du bâtiment d'Icham qui est régulièrement squatté par des groupes de jeunes.
Moi personnellement j'ai peur, ils vont me casser la gueule, ils vont me tuer. On ne peut pas leur dire arrêtez ou quoi que ce soit, on a peur qu'ils vont nous attaquer. Alors je ferme ma gueule et à des fois je ne sors pas le soir du tout.
Voilà, c'est le 26e meurtre par balle confié à la police judiciaire de Marseille depuis le début de l'année. Ça fait un mort tous les 10 jours depuis le mois de janvier.
Hugo Hamelin, Marseille pour RTL. Donc aucune certitude hein, pour l'instant sur les raisons de ce meurtre. Ce qui est certain en revanche, c'est que les Bouches-du-Rhône et Marseille notamment connaissent régulièrement des règlements de compte liés au trafic de stupéfiants. Et justement, Gérald Darmanin a fait de cette lutte sa priorité et il a dressé un bilan aujourd'hui sur Twitter. Un total de 719 lieux de vente, points de deal, ont été démantelés sur les 3952 recensés en janvier 2021. C'est ce qu'annonce donc le ministre de l'Intérieur. Le député insoumis François Ruffin était à la mi-journée l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Il a beaucoup été question des retraites. Il demande à Emmanuel Macron d'organiser un référendum. Il a aussi été interrogé sur les affaires Quatennens et Bayou. Là, il demande un peu de temps, un temps de suspension pour éviter de condamner trop vite. Vous l'entendrez et on commettra toute son intervention tout à l'heure dans le MacPol à 18h30. Mais François Ruffin, grand amateur de foot, a aussi été interrogé sur la Coupe du Monde au Qatar et les appels au boycott. Écoutez son point de vue.
On peut demander au téléspectateur François Ruffin de boycotter la Coupe du Monde. Et je peux venir vous dire oui, je vais le faire. Et là, on a encore 2 mois devant nous, je peux vous le dire. Le jour où l'équipe de France va être sur le terrain, où je vais voir un maillot bleu derrière un ballon de foot, est-ce que je vais allumer mon poste pour regarder le match avec mon fils ou pas ? Franchement, je pense que je vais l'allumer. Il y a une autre question. C'est le boycott par les dirigeants politiques, le boycott par la diplomatie. Puisque là, on est sur en fait une affaire qui n'est pas seulement une affaire sportive, qui est une affaire politique, qui est une affaire diplomatique. Et je pense qu'en revanche, on peut demander à Emmanuel Macron de ne pas se rendre au Qatar.
Voilà, François Ruffin, on reviendra sur son grand jury tout à l'heure dans le MacPol, mais allons tout de suite justement sur ce sujet à Lille. Puisque Martine Aubry l'a annoncé après un vote du conseil municipal, il n'y aura pas d'écran géant dans la ville pour vivre cette Coupe du Monde en public. Strasbourg avait déjà annoncé sa décision, donc Lille, lui, emboîte le pas. Bonsoir Arnaud Deslandes.
Bonsoir.
Vous êtes le deuxième adjoint à la mairie de Lille. Merci d'être avec nous ce soir sur RTL. On est maintenant à 2 mois de l'événement, événement qui a été annoncé en décembre 2010. Est-ce que vous ne vous réveillez pas un peu tard ?
Écoutez, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour dire en fait son désaccord, sa désapprobation et ce que nous inspire réellement cette Coupe du Monde. Alors on n'est pas naïf, on sait très bien qu'on n'empêchera pas l'organisation de la Coupe du Monde et que les matchs vont commencer en novembre comme c'est prévu. Mais l'ambition qu'on souhaite collectivement, je pense, parce que je vous rappelle quand même que tous les élus du conseil municipal, de la majorité comme de l'opposition, ont voté cette motion pour dire notre désaccord sur la Coupe du Monde. Ce qu'on souhaite dire, c'est simplement envoyer un message. J'irai même jusqu'à la FIFA pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas refaire ce qui vient de se passer, qu'on ne peut jamais refaire une Coupe du Monde dans ces conditions, qui soit à la fois une remise en cause des droits humains, où il y a eu 6500 personnes qui ont laissé leur vie pour construire des stades, seulement pour le plaisir des supporters, je dirais, et qui soit à ce point une aberration écologique, et même un non-sens sportif. Donc tout ça fait en cumulé que, même si on sait très bien que la Coupe du Monde aura lieu, il est toujours temps de dire stop, ça va trop loin. Il faut revenir aux valeurs fondamentales du foot, telles qu'on l'a toujours aimé, et qu'on ne peut pas se retrouver dans un pays où c'est seulement l'argent en fait qui a acheté une Coupe du Monde. C'est pas l'intérêt sportif qui est imprimé, et encore moins finalement on l'a vu au fil des années, les droits humains ou l'intérêt écologique, tout cela a été bafoué et on ne peut pas recommencer dans ces conditions. Sinon on voit bien aujourd'hui que tout le monde est mal à l'aise avec la Coupe du Monde. Quand vous en parlez aux gens autour de vous, personne ne vous dit super, ça va être génial, tout le monde sent qu'il y a un problème. Donc on va tous soutenir l'équipe de France dans notre cœur évidemment, mais il faut qu'on marque publiquement une forme de désapprobation.
Mais ce sont aussi les supporters lillois que vous sanctionnez en les privant de cette fête en public. C'est pas la même chose de regarder un match seul chez soi que devant un écran géant.
Bon, déjà, ils peuvent le regarder avec leurs amis chez soi. C'est pas interdit, ça on l'empêche pas. Et quand je vous dis que les gens sont mal à l'aise, je vous parle d'abord des Lillois, puisque c'est avec eux que j'en parle. Voilà, donc il faut le dire maintenant, une fois pour toutes, publiquement, en espérant qu'on ne refera jamais une folie pareille.
Et au-delà des écrans géants, là, c'est un petit peu votre avis que je vous demande. Vous espérez que même chez eux, les Français boycottent cette Coupe du Monde ?
Dans l'idéal, oui. sais que c'est compliqué, que si l'équipe de France, sait-on jamais, faisait un beau parcours, atteignait les demi-finales, voire la finale, que beaucoup de gens se retourneraient pour regarder les finales, et peut-être moi y compris.
Un dernier mot sur l'attitude des joueurs de l'équipe de France. Mmh. Est-ce que vous espérez que, d'une manière ou d'une autre, ils s'expriment ?
Je pense pas qu'ils le feront. Je suis pas sûr que ce soit forcément leur rôle au demeurant. Il y a un gouvernement dans ce pays, il y a un président de la République. C'est aussi à eux de dire que nous désapprouvons cette Coupe du Monde aussi.
C'est-à-dire de ne pas aller au Qatar. Là, on parle du président ou des ministres concernés.
Oui, par exemple. D'autres pays ont déjà annoncé qu'ils n'iraient pas.
Merci beaucoup, Arnaud Deland, deuxième adjoint à la mairie de Lille. Lille, donc, ne mettra pas d'écran géant dans les rues pour ce mondial au Qatar. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on marque une courte pause. Dans un instant, le retour du Covid et de la vaccination avec de nouveaux vaccins contre Omicron.
RTL dimanche. 18h, 19h15, RTL dimanche soir. Avec Vincent Parisot.
C'est donc demain, lundi, que commence la campagne de vaccination avec les nouveaux vaccins du Covid qui sont adaptés aux variants Omicron. Les vaccins qu'on utilisait jusqu'à présent en France avaient été tous fabriqués à partir du virus chinois du tout début de l'épidémie de 2020. Les labos ont donc travaillé pour mettre au point un vaccin qui permet de mieux limiter les formes graves contre Omicron. Omicron qui aujourd'hui circule presque exclusivement dans le pays. Virginie Garin.
Oui, ce vaccin est recommandé aux plus de 60 ans et aussi, quel que soit leur âge, à toutes les personnes qui risquent de développer une forme grave du Covid. Celles qui souffrent de diabète, d'hypertension, les femmes enceintes, les immunodéprimées, mais aussi, il s'adresse à leur entourage et au personnel soignant. Alors, pour les plus âgés qui ont déjà eu 4 doses, ils peuvent en faire une 5e, mais il faut attendre 3 mois depuis la dernière injection pour les plus de 80 ans et 6 mois pour les autres. Pour se faire vacciner, très peu de centres ont rouvert pour l'instant. Il vaut mieux s'adresser à son médecin ou son pharmacien, une infirmière ou une sage-femme. Plus de 500 000 doses ont déjà été livrées ces derniers jours. D'ici novembre, 12 millions seront disponibles. Donc, de ces vaccins qui ont été adaptés aux variants Omicron et qui devraient être plus efficaces pour éviter donc une forme grave.
Virginie Garin. L'Indonésie a donc connu hier soir l'une des pires tragédies jamais survenues dans un stade de foot. Le bilan, au moins 125 morts dans un mouvement de foule. Lorsque des milliers de supporters ont envahi la pelouse avant d'être aspergés de gaz lacrymogène par la police, ce drame s'est déroulé à Malang, à l'est de l'île de Java. Et cela à l'issue d'un match entre deux équipes à la rivalité historique. Philippe Dova, vous êtes le correspondant d'RTL en Asie.
Oui, la rivalité entre les deux clubs indonésiens est historique et comparable à celle que l'on connaît en France entre le PSG et l'OM. Hier soir, les supporters chauffés à blanc n'ont pas admis la défaite à domicile et plus de 3000 d'entre eux ont envahi la pelouse du stade dès le coup de sifflet final. Incapable de contenir cette foule, la police a fait alors usage de grenades lacrymogènes à l'intérieur du stade, provoquant un mouvement de panique générale. Aveuglés par les fumées, de nombreux spectateurs qui tentaient de fuir ont été littéralement piétinés, étouffés. Des bagarres ont éclaté entre les forces de l'ordre et les supporters à l'extérieur du stade. Plusieurs véhicules de police ont même été caillassés et incendiés. Des scènes d'émeutes pour un bilan toujours provisoire d'après les autorités de 125 morts, 260 blessés, dont une quarantaine en urgence absolue. Plus de 70 médecins ont été mobilisés pour identifier les corps des victimes. Un numéro d'urgence a été mis en place pour les familles sans nouvelles de leurs proches. Et pour les victimes identifiées, les premiers enterrements ont commencé aujourd'hui au son de sanglots de désespoir.
Philippe Dova en Asie pour RTL. Au Burkina Faso, près de 2 jours après l'annonce de la destitution du chef de la junte au pouvoir, eh bien la tension reste très vive. Et des manifestants s'en sont pris aujourd'hui à la France. Des dizaines de personnes qui se sont rassemblées devant l'ambassade de France à Ouagadougou. Ils ont mis le feu à des barrières de protection, jeté des pierres à l'intérieur du bâtiment. Sur le toit du bâtiment, il y avait des soldats français qui ont tiré des gaz lacrymogènes. Et ils ont également, ces gaz lacrymogènes étaient tirés depuis l'intérieur de l'ambassade pour disperser les manifestants. Le nouvel homme fort autoproclamé, Ibrahim Traoré, appelle ce soir à cesser les violences contre les intérêts français. Les Brésiliens votent en ce moment pour le premier tour de l'élection présidentielle. C'est sans doute l'élection la plus polarisée depuis des décennies. La plupart des sondages donnent une nette avance à Lula, mais le sortant, Jair Bolsonaro, a laissé entendre qu'il pourrait refuser de reconnaître sa défaite, ce qui fait craindre évidemment une crise institutionnelle, voire des violences. En tout cas à Paris, dans une annexe de l'ambassade du Brésil où l'on a voté jusqu'à 17h, le climat était beaucoup plus apaisé. Valentin Boissé, vous avez rencontré ces électeurs qui ont fait la queue pendant des heures.
Oui, une file d'attente impressionnante.
Je suis arrivé à midi, 3h30 de queue, c'est vraiment important.
L'ambiance est plutôt festive, il y a de nombreux drapeaux, Lula Presidente sur les dos. Il faut dire que les Brésiliens installés en France votent traditionnellement à gauche, mais cette année, la mobilisation est beaucoup plus forte.
On n'a jamais vu une foule pareille.
Tout cela explique par le rejet profond du leader d'extrême droite, Jair Bolsonaro.
C'est le pire président. C'est le pire président.
Anna Maria est installée en France. Sa maman est au Brésil. Elle vient tout juste de lui montrer en appel vidéo la longueur de la file d'attente parisienne. Alors pourquoi vous êtes venu
pour voter pour Lula. Voilà. Mais c'est le parti d'extrême droite qui est en train de tout bousiller, les droits sociaux, l'Amazonie. Voilà.
C'est la première fois qu'Anna Maria vote. Le nombre d'électeurs inscrits en France à cette élection est passé de 8000 il y a 5 ans à 22000 cette année.
Reportage signé Valentin Boissé et bien sûr les résultats de ce premier tour de la présidentielle au Brésil. Ce sera demain dans la matinale d'RTL. Une courte pause dans un instant. 24 heures de tatouage pour la bonne cause, celle d'Octobre Rose.
RTL dimanche. 18h-19h15, RTL dimanche soir. Avec Vincent Parisot.
Octobre Rose, c'est donc parti depuis hier. Un mois de prévention et de mobilisation contre le cancer du sein auquel M6 et RTL sont d'ailleurs associés. Et dans ce cadre d'Octobre Rose, depuis hier 17h et jusqu'à aujourd'hui 17h, eh bien, un tatoueur ariégeois a tatoué pour la Ligue contre le cancer. Il s'est lancé le défi de réaliser le maximum de tatouages en 24 heures. Et sur les 50 euros que coûtent ses créations, eh bien, 10 euros sont versés à la Ligue contre le cancer. Il vient donc d'achever son marathon pour la bonne cause, Valentin Larquier.
Oui, 300 tatouages en 24 heures pour Ivan. Ça fait quand même 3000 euros récoltés pour la Ligue contre le cancer. Et il continue actuellement, car il y a encore du monde devant son salon à Saverdun. La fatigue commence un peu à se faire ressentir.
Là, c'est le mental et voilà, c'est pour une bonne cause. On se reposera demain. Voilà, c'est de la concentration. Je suis content, j'ai réussi à faire mes tatouages propres.
Cette idée de marathon au bénéfice des personnes touchées par le cancer du sein lui est venue après le passage particulier d'une cliente.
J'ai tatoué il y a pas longtemps une dame qui a fait une reconstruction mammaire. J'ai dû tatouer par-dessus pour cacher ses cicatrices. Elle était heureuse, elle était toute contente et ça m'a fait plaisir et j'ai amené cette idée de faire quelque chose pour une association.
Aujourd'hui, Sarah a fait 60 km exprès pour l'occasion.
C'est important pour moi parce que mes grand-mères, mes tantes ont toutes quasiment été touchées par le cancer du sein. Donc pour moi, c'est assez important. J'ai perdu ma grand-mère d'un cancer. On ramassait tout le temps des roses, d'où la rose sur mon doigt pour la lutte contre le cancer du sein. Je trouvais ça mignon.
Des histoires qui touchent Ivan, le tatoueur compte bien refaire couler l'encre dans un an, pendant 24 heures, toujours au bénéfice de la Ligue contre le cancer.
Un reportage de Valentin Larquier et notez qu'à 19h15, ce sera un spécial Octobre Rose dans On refait le sport avec Isabelle Langer. Elle recevra notamment l'ancienne gagnante de Koh-Lanta, Christelle Gauzet, ainsi que Valérie Trierweiler. Pour un agriculteur breton de Carnouët dans les Côtes d'Armor, la sécheresse a été dévastatrice. Résultat, des haricots bio trop petits pour être récoltés à la machine sur ses 4,5 hectares de plantation. Un manque à gagner terrible pour lui, mais pour autant, pas la fin des haricots, justement, puisque sur les réseaux sociaux, il a proposé au public de venir récolter lui-même pour 1 euro le kilo, un post devenu viral et un énorme succès pour cette opération, Nicolas Bobby.
Oui, c'était la ruée sur l'or vert, la chasse aux haricots. Dépité, le producteur Erwan Lecref a trouvé cette solution, sa coopérative estimant les plants trop petits pour les récolter.
Les machines, a priori, ne pouvaient pas les récolter compte tenu de la taille. Les conserveries, en fait, étaient saturées déjà, avaient leur quota de la semaine. Du coup, on m'a laissé ma parcelle de côté. Ça va couvrir une partie de mes frais fixes, quand même.
Vendu 1 euro le kilo, Angélique s'est précipitée.
On a fait le comparatif, les 400 grammes, c'était à 2,99 €, donc ça fait une belle économie. Ça évite que ce soit jeté, puis bah pour nous, ça nous fait acheter toujours moins cher. Et en plus, c'est de la qualité, on le cueille nous-mêmes. C'est bien pour le producteur parce que lui, il ne perd pas non plus toute sa production.
Xavier est devenu un super cueilleur.
On les détache juste du plan, quoi. On les regroupe dans la main et puis après, on les met dans le sac.
La pesée s'est effectuée à l'arrière du camion.
Allez, hop, on va peser ça. Hein. 5 kilos.
Généreux, certains ont payé 3 euros le kilo. La cueillette à Carnouët se poursuit jusqu'à mercredi.
Merci Nicolas Bobby pour ce reportage à Carnouët dans les Côtes d'Armor. Alors justement, puisqu'il est question aussi de pouvoir d'achat, on peut maintenant dresser le bilan de la série 7 jours, 7 reportages que vous avez pu écouter toute cette semaine sur RTL, consacré au pouvoir d'achat des Français donc, et à leurs préoccupations. Néri Saïmani a passé la semaine dans la zone commerciale de Saint-Maximin, c'est la plus grande zone commerciale au sud de l'Oise, 330 enseignes, des milliers de visiteurs chaque jour. On fait le bilan avec vous. Bonsoir Nérissa.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et vous l'avez constaté, les Françaises sont de plus en plus proches de leur porte-monnaie.
Oui, toutes les personnes, tous les clients que j'ai rencontrés cette semaine me l'ont dit. C'est compliqué en ce moment, on fait attention. Au supermarché, par exemple, certains vont jusqu'à s'endetter, alors qu'ils ne le faisaient pas avant, avec des chèques différés. Vous savez, on paye maintenant et on est débité un mois, deux mois plus tard. J'ai rencontré, par exemple, une retraitée qui gagne 1200 euros et qui est à découvert tous les mois pour faire ses courses. Elle est obligée aujourd'hui de faire des choix. Pas de viande, pas de poisson, des pâtes et deux légumes qu'il faudra rationner. Les habitudes de consommation, je l'ai bien compris, ont changé depuis la hausse des prix. Les restaurants, les magasins de vêtements, pourtant bon marché, sont très très loin d'être remplis.
Alors, en une semaine dans cette zone commerciale, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, Nérissa ?
Eh bien, toutes ces petites astuces pour faire des économies. Par exemple, je suis allée dans un magasin de jardinage. La responsable m'a dit qu'elle n'avait jamais vendu autant de graines que cette année, avec des clients qui ne veulent plus payer leurs fruits et leurs légumes et à qui il faut tout apprendre de A à Z. J'ai croisé une dame qui n'a pas acheté de légumes cet été et qui a réalisé une centaine d'euros d'économies. Des Français jardiniers, mais aussi qui s'improvisent bricoleurs avec la hausse des prestations chez les garagistes. Certains achètent des pièces détachées et font leurs travaux seuls grâce à des tutos sur Internet et même sur les parkings de la zone commerciale. J'ai appris que placer soi-même une mèche sur un pneu crevé, ça coûte 10 euros contre 35 euros chez un garagiste. Voilà ce que je retiens, il n'y a pas de petites économies.
Merci Nérissa et Mani, hein, qui vous a fait vivre donc cette série 7 jours, 7 reportages à Saint-Maximin dans cette zone commerciale de l'Oise. C'est pas tout à fait fini parce que le dernier épisode, ce sera tout à l'heure dans le journal de 19h, dans un peu plus d'une demi-heure. Vous êtes allé chez le coiffeur. Alors, pas pour vous faire coiffer,
non, pas pour moi,
mais pour le reportage, le coiffeur où les habitués sont effectivement de plus en plus rares. On passe au sport, au football, la 9e journée de Ligue 1. Je vous rappelle les résultats des matchs de cet après-midi. La victoire de Lorient face à Lille 2-1, de Clermont à Ajaccio 3-1. Les matchs nuls entre Troyes et Reims 2 partout, entre Auxerre et Brest 1 partout. Et la victoire de Toulouse face à Montpellier 4 buts à 2. Pour Monaco-Nantes, qu'est-ce que ça donne, Mickaël Lefebvre ?
Eh bien, ça fait 4 buts à 0 pour l'AS Monaco face à Nantes, qui surclasse largement cette équipe nantaise. Et un triplé, le hat-trick de Wissam Ben Yedder. C'est Mbolo qui avait ouvert le score pour les Monégasques, mais Ben Yedder a donc mis 3 buts pour l'instant dans cette rencontre. Il est bel et bien de retour, l'international français.
Merci Mickaël, on fera un nouveau point tout à l'heure évidemment, ce soir à 20h45. Lens-Lyon, ce sera à suivre dans RTL Foot. Et puis sachez qu'en Formule 1, Sergio Pérez, sur sa Red Bull, a remporté le Grand Prix de Singapour tout à l'heure devant les deux Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Quant à Max Verstappen, sur l'autre Red Bull, toujours largement leader du championnat après 17 manches, eh bien il n'a terminé que 7e de la course. Il n'a donc pas converti sa première chance de titre mondial qu'il aurait pu décrocher dès aujourd'hui. Ce sera sans doute pour plus tard. On marque une courte pause et dans un instant, on ouvre le MacPoll. À tout de suite.
RTL dimanche soir. RTL dimanche soir. Le MacPoll avec Vincent Parisot.
Le MacPoll, le magazine politique de la rédaction d'RTL, avec au menu les affaires Bayou et Quatennens qui mettent les insoumis et les écologistes sous haute tension. Le grand jury de François Ruffin de la France Insoumise. On y reviendra avec ses intervieweurs, bien sûr. La réforme des retraites, l'hypothèse du blocage de la censure, la dissolution brandie par Emmanuel Macron. L'invité du MacPoll sera Jean-Daniel Lévy, le directeur délégué d'Aris Interactive. Il va donc nous dire ce que pensent vraiment les Français de cette réforme des retraites. La rentrée politique de Xavier Bertrand avec son nouveau parti Nous France. L'ouverture de la session parlementaire demain avec une assemblée sans majorité absolue. Et pour achever ce programme chargé, comme chaque dimanche, l'agenda de la semaine.
Vincent Parisot, le MacPoll sur RTL.
François Ruffin était donc l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI à la mi-journée. Il a bien sûr largement été question des affaires Adrien Quatennens et Julien Bayou qui touchent le fonctionnement des instances de LFI et d'Europe Écologie Les Verts, avec, vous le savez sans doute, comme dernier développement, les révélations de Libération sur la mise sous surveillance ces trois dernières années de Julien Bayou par un collectif féministe tout à fait informel qui lui reprochait sa conduite et qui enquêtait sur ses relations privées. Voilà donc le contexte général, mais François Ruffin a tout d'abord réagi à l'affaire Quatennens.
D'abord, les violences au sein du couple sont intolérables, quels que soient les conflits qui existent, et j'apporte mon soutien aux femmes victimes en France et dans le monde. Maintenant, je prends acte des excuses d'Adrien, de son retrait, et je pense que de toute façon, il va se mettre en retrait de la vie publique pendant un moment. Et je pense pas que ça soit là, dans l'urgence, quand il y a le feu, qu'on doit décider si un homme doit abandonner la vie publique définitivement ou non. Je pense qu'on peut se donner un temps de suspension pour que les esprits s'apaisent et qu'on voit quelle est la réalité des faits et qu'on le fasse pas à l'emporte-pièce. Maintenant, comment on fait pour sortir d'un bricolage avec chaque parti qui fait ceci, chaque institution qui fait cela, et comment, moi, je suis favorable à une charte nationale pour toutes les institutions et les entreprises, et les associations, et les syndicats.
Et les partis politiques.
Et les partis politiques, bien sûr.
Voilà donc pour la réaction, les explications de François Ruffin de la France Insoumise tout à l'heure au grand jury RTL de Figaro LCI sur ses affaires, Quatennens et Bayou. On y revient avec ses intervieweurs, Olivier Bost pour RTL, bonsoir.
Bonsoir.
Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr.
Bonsoir.
Et avec nous également Amélie Carouer pour TF1 LCI, bonsoir.
Bonsoir.
Et Jim Jarassé du Figaro.
Bonsoir.
Alors il dit en substance, tout ça est allé trop vite, il demande du temps, c'est ça Marie-Pierre Haddad?
Oui, et il dit surtout, quand un homme chute, c'est pas le moment de le flinguer une deuxième fois. Donc il reste aussi, François Ruffin, un peu dans la lignée de la France Insoumise, à ne pas savoir comment se positionner dans toute cette affaire. Et il ne répond pas clairement à la question, est-ce que Adrien Quatennens doit renoncer à son mandat de député? Et ça, on l'a vu instantanément en réaction sur les réseaux sociaux. Ça a provoqué un gros mécontentement de personnes qui disent mais comment est-ce qu'il peut continuer à toucher un salaire de député et alors qu'il y a ces accusations-là sur lui.
Comme ils sont perdus, ils demandent un temps mort, mi-temps, pour essayer de reposer un peu les choses et de phosphorer. Mais il n'est pas le seul leader de gauche comme ça. Moi, je me souviens, Yannick Jadot, la semaine dernière, il ne demandait pas du temps, mais lui aussi, il a commencé par nous répondre sur ce qu'il faudrait faire au niveau national. Là, effectivement, il demande une charte au niveau national et il renvoie tout le monde dans les cordes. Hein, quand on parle des partis, c'est aussi les syndicats, les entreprises, etc. Mais il ne répond pas sur la question des partis politiques, puisque c'est quand même le sujet du moment, en tout cas peut-être pas aussi clairement qu'on pourrait l'attendre.
Ce qu'on commence à voir, c'est le trouble que Sandrine Rousseau, par sa façon de parler de l'affaire Bayou, sa façon de raconter les choses, ça a provoqué un trouble et je pense que les politiques, au fur et à mesure, prennent un peu de distance, se montrent infiniment plus prudents et effectivement demandent du temps.
On va d'ailleurs l'écouter dans quelques minutes, Sandrine Rousseau, elle s'est expliquée tout à l'heure sur France 3, mais il utilise quand même des mots assez sévères, ou il reprend des mots assez sévères, il parle d'inquisition par rapport à ce qui s'est passé au sein d'Europe Écologie Les Verts.
Oui, je pense qu'il ne s'attendait pas lui-même à utiliser ce mot-là en allant aussi loin. Il était interrogé sur la traque selon un article de Libération organisé autour de Julien Bayou, et donc le terme inquisition est sorti, ce qui quand même dit quelque chose des limites que certains hommes, femmes politiques trouvent effectivement à ce qui s'est passé ces derniers temps, via, Olivier le disait, notamment les expressions de Sandrine Rousseau, où certains se demandent dans quelle mesure ce qui est en train de se passer va trop loin, comment le canaliser, sans en même temps donner l'impression de voir bâillonner un mouvement qui est nécessaire.
Merci Amélie Carouer. Vous restez tous avec nous, mais je vous le disais, Sandrine Rousseau qui a allumé la mèche dans cette affaire Bayou et qui se retrouve maintenant avec ses révélations de Libération, disons, en première ligne, a donc réagi aujourd'hui, c'était sur France 3.
Non seulement je n'étais pas au courant, et absolument pas au courant, et d'aucune manière, mais en plus, j'ai lu l'article, et ça n'est pas du tout une mise sous surveillance. Cet article me semble extrêmement problématique sur le fond. On parle de mise sous surveillance, alors qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des femmes qui se sont parlé entre elles, parce qu'elles ont estimé qu'il était nécessaire de protéger d'autres femmes. Non mais je ne regrette absolument rien, et vous ne me ferez rien regretter, j'ai répondu en tant que citoyenne, dans un moment où il fallait de la transparence. C'est ce que j'ai garanti en posant cette parole. Je protège le combat des femmes, et je continuerai à le protéger. Moi, je vais vous dire, c'est que si je dois quitter la politique pour avoir défendu les femmes, eh bien, ce sera un honneur.
Voilà pour les explications de Sandrine Rousseau qui dit « Je ne regrette rien » et nous étions des femmes qui discutions à l'intérieur de ce parti. Allez, on revient au grand jury de François Ruffin, car évidemment le grand sujet, c'était la réforme des retraites.
Le mandat qui est en jeu aujourd'hui, pour moi, c'est pas le mandat des députés, c'est le mandat du président de la République. C'est sa réforme qui veut passer à tout prix. Donc c'est son mandat qui pose question. Moi, je suis favorable à ce qu'il, s'il veut passer en force sa réforme des retraites, qu'elle passe par référendum et que, comme l'a fait Charles de Gaulle, eh ben, il respecte l'avis du peuple français et si c'est non à sa réforme de retraite, c'est lui qui doit remettre son mandat en jeu, ce ne sont pas les députés. Quand on se comporte comme ça, quand on fait des réformes contre le peuple, sans le peuple, à la fin on produit une usure de la démocratie et moi je le dis, dans la durée, je suis très inquiet pour mon pays.
Voilà donc pour les propos de François Ruffin, le député de la France Insoumise, concernant les retraites dans ce grand jury RTL de Figaro LCI. On est avec Olivier Bost d'RTL, Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr, Amélie Carouer pour TF1 et LCI, et Jim Jarassé du Figaro. De ce qu'on vient d'entendre, on retient qu'il dit « la France a besoin de sagesse et en même temps, il faut un référendum. C'est presque paradoxal.
Il y a une certaine habileté politique, parce qu'en fait, il ne croit pas, je pense, dans le fond, à l'idée d'une motion de censure qui viendrait renverser le gouvernement. Donc la façon de d'écarter un peu cette question-là, la façon aussi d'écarter tout ce qui pourrait être négociation avec le gouvernement, aller discuter très concrètement de cette réforme des retraites, il l'évacue aussi par un référendum qui est l'idée de prendre à témoin les Français et puis surtout de retomber dans un rapport Macron et le peuple, ce qui pour lui est un peu son credo. Et donc, ce référendum, c'est assez habile.
Il y a un moment, il dit, quand Jim Jarassé le relance sur la précarité, les carrières hachées, etc., il dit, mais pourquoi pas discuter, en effet ? Parce qu'on se rappelait juste avant cette émission, l'époque où il parlait quasiment de mettre la tête d'Emmanuel Macron sur un pic, de le dégager de l'Élysée. Là, on n'est plus là-dedans, il est plus sur, bon, il faut virer moi ce gouvernement, retournant l'Assemblée nationale, etc. On sent que, voilà, il veut se montrer peut-être plus constructif. Voilà.
Marie-Pierre Haddad.
On sent aussi qu'il a parfaitement conscience de la crainte que peut provoquer le côté un peu rébellion à l'Assemblée nationale des députés de la France insoumise. Donc il essaye, comme on l'a dit déjà, d'être constructif. Il dit mon ennemi, ce n'est pas Emmanuel Macron, ce n'est pas Marine Le Pen. Il revient vraiment à des choses beaucoup plus centrales. Et tout ça, tout ce grand jury pendant une heure a déclenché des réactions des internautes qui disent mais au final, mais qu'est-ce qu'il fait à la France insoumise ?
Oui, ce qui est intéressant avec François Ruffin à gauche, c'est qu'il n'est pas dans ce que j'appellerais des charentaises idéologiques, c'est-à-dire on est bien installé confortablement dans nos programmes politiques avec notre leader qui serait Jean-Luc Mélenchon, mais il ose attaquer un certain nombre de tabous à gauche, l'immigration, la sécurité, à partir d'expériences de terrain. Et c'est ça, quoi, finalement, qu'on attend aujourd'hui d'un homme politique, alors qu'il y a une singularité et un parcours qui est le sien, qui n'est pas un politique pur jus. Mais en tout cas, je trouve que ça prend sa voix apporte quelque chose dans le débat.
Merci Jim Jarassé, merci d'ailleurs à vous tous. Olivier Bosse, vous restez avec nous, parce qu'on va parler avec vous de la rentrée parlementaire de demain et de cette assemblée sans majorité absolue. Et puis ensuite, on sera avec Jean-Daniel Lévy d'Aris Interactive. Il va nous dire ce que les Français en pensent vraiment de cette réforme des retraites. À tout de suite.
Le MacPol, Vincent Parisot. RTL dimanche soir. Le MacPol avec Vincent Parisot.
L'actualité politique chaude et immédiate, eh bien c'est la rentrée parlementaire. C'est demain à l'Assemblée nationale, cette assemblée Olivier Bost, que l'on a dit après les législatives, sans majorité forte, sans majorité absolue.
Absolue, ouais.
Alors cette assemblée, elle va se retrouver au pied du mur avec des textes essentiels, hein, évidemment, notamment les budgets. Que va-t-il se passer ?
En fait, ce qu'il faut regarder à partir de demain, c'est que pour à peu près tous les groupes parlementaires, se joue une rentrée très importante. Pour les Républicains, tout d'abord, il y a une campagne interne qui les concerne. Ils doivent choisir leur nouveau chef d'ici l'hiver. Et dans ce choix qu'ils doivent faire, ça va influencer leur opposition. Donc ils vont s'opposer plus qu'avant, ça c'est sûr. Pour le Rassemblement National, ils ont gagné la première manche cet été, qui était celle de la respectabilité, donc ils avaient des cravates, ils disaient pas de bêtises, etc. Ils doivent continuer sur ce mode-là, mais en même temps, il faut qu'ils montrent aussi qu'ils sont capables de s'opposer, qu'ils fassent entendre leur voix, parce que sinon on va leur dire, vous servez à quoi ? Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous avez plus de 90 élus, et on ne vous entend pas. Et pour la France insoumise, là c'est plus l'enjeu, je dirais, de la NUPES. On voit bien qu'avec différentes affaires, les affaires de violences sexistes et sexuelles, mais aussi, on en parlait avec François Ruffin, sur la question du travail, donc sur les questions idéologiques. Il y a beaucoup de choses qui traversent la NUPES. Et donc, dans la façon de se comporter par rapport aux différentes réformes, que ce soit le budget, que ce soit les retraites, il y a des choses qui vont se jouer et se nouer, parce que certains se disent que la NUPES va avoir du mal à survivre à tous ces épisodes-là.
Cette réforme des retraites qui est dans tous les esprits, l'idée du 49-3, elle est toujours dans la tête du président ?
Alors, ça sera quasiment obligatoire, en fait, si on regarde les choses. Pour avoir une majorité absolue sur le budget, ce n'est pas possible. Sur les retraites, ça sera très probablement compliqué. Il faudra voir ce que les LR font à ce moment-là. Et donc, le 49-3 sera dégainé. Le principal risque du 49-3, c'est qu'il y ait des dépôts de motions de censure dans la foulée, et qu'une majorité de coalition entre les différentes oppositions arrive à se former et renverse le gouvernement. Très franchement, c'est pas le plus probable. La clé, c'est les Républicains. C'est eux qui détiennent vraiment la clé, parce que c'est eux qui, s'ils déposent une motion de censure, peuvent être suivis et rejoints par les autres. Les autres motions de censure, on imagine mal les LR aller voter une motion de censure du Rassemblement National, par exemple. Donc les LR sont la clé. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'Emmanuel Macron, quand il a menacé d'une dissolution, c'est-à-dire de retourner aux urnes et de réélire les députés, s'il y avait cette motion de censure et ce renversement de gouvernement, il a quelque part à la fois mis sous pression les Républicains et en même temps montrer le rôle qu'ils peuvent jouer. Et donc, c'est un petit peu ambigu parce que c'est une arme redoutable qu'a le président de la République, mais c'est une arme qui peut aussi largement se retourner contre lui, et notamment s'il avait encore moins de députés qu'il en a aujourd'hui.
Merci Olivier Bost. Et puis question subsidiaire, l'opinion, qu'en pense-t-elle? On en parle maintenant avec le directeur délégué d'Aris Interactive. Bonsoir Jean-Daniel Lévy.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir dans le MacPol. Alors cette réforme des retraites, est-ce qu'elle fait aujourd'hui partie des principales préoccupations des Français? Est-ce qu'elle est à leurs yeux un enjeu prioritaire?
Déjà aujourd'hui, c'est pas vraiment un sujet pour les Français. Hein. Quand on les interroge sur les préoccupations, sur les thèmes dont ils entendent le plus parler à l'heure actuelle, ils vont nous parler de l'Ukraine, ils vont nous parler du pouvoir d'achat, ils vont nous parler du dérèglement climatique. La thématique de retraite n'est pas encore pleinement au centre de leurs préoccupations. Et d'ailleurs, on peut voir que au cours de la dernière élection présidentielle, quand bien même Emmanuel Macron en avait fait un de ses axes principaux de campagne, celle-ci ne faisait pas partie des principaux éléments de motivation de vote des électeurs, et surtout de la part du cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron, quand vous prenez les premières motivations de vote, la question des retraites ne faisait pas partie des 5 premières motivations de vote des électeurs d'Emmanuel Macron.
Parmi les arguments, et notamment émis par la Première Ministre, à savoir travailler plus longtemps est nécessaire pour financer le modèle social, est-ce que les Français sont d'accord? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont prêts à travailler plus longtemps pour continuer à financer ce modèle social français?
Alors les Français sont emplis de contradictions, et là on peut le voir à travers la manière dont ils peuvent réagir concernant cet enjeu. Ils pensent de manière générale que le fait qu'il y ait aujourd'hui moins d'actifs et plus de retraités va appeler d'une manière ou d'une autre à ce qu'il y ait plus de cotisations, que ça passe par un allongement de la durée du travail, que ça passe par un allongement du nombre de cotisations. Ils ne sont pas entièrement d'accord sur ce point-là, mais en tout cas, ils le voient bien. Et pour autant, lorsqu'on leur demande, en fait, faut-il ou pas repousser l'âge légal de départ à la retraite à 64, voire à 65 ans, ils y sont fermement opposés, probablement parce que la question du report de l'âge légal de départ à la retraite n'est pas à leurs yeux uniquement une question de financement, mais également une question de rapport au travail et de souhait de pouvoir partir le plus tôt possible à la retraite dans de meilleures conditions en matière de santé et de qualité de vie.
Est-ce que les Français envisagent, anticipent déjà le mouvement social qui pourrait naître avec la mise en place de cette réforme? Est-ce que les Français sont déjà prêts soit à le soutenir, soit à le condamner?
D'une manière générale, ils sont plutôt prêts à soutenir le mouvement social. Et ça a d'ailleurs été le cas au cours, vous en souvenez, de la dernière période où il avait été question de la réforme des retraites, il y a de cela quelques années. Dans un même élan, quand vous demandez aujourd'hui les acteurs auxquels les Français accordent le plus leur confiance pour pouvoir trouver de bonnes solutions concernant la réforme des retraites, il y a deux phénomènes qui sont majeurs. Le premier phénomène, c'est qu'il n'y a aucun acteur qui génère la confiance de plus d'un Français sur deux. Donc il y a une forme de critique à l'égard de tous ceux qui s'expriment dans la place publique. Et puis également, dans la hiérarchie des acteurs, une confiance qui est plus importante accordée aux organisations syndicales qu'aux autres acteurs, non pas forcément uniquement pour proposer des choses, mais également pour défendre les intérêts de nos compatriotes.
Merci, merci beaucoup Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Aris Interactive, de nous avoir éclairé ce soir dans le MacPol sur le regard que portent les Français sur cette réforme des retraites. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à noter sur ce thème d'ailleurs, la réforme des retraites, que la CFDT participera bien aux concertations avec le gouvernement. L'annonce a été faite par Laurent Berger dans le journal du dimanche. Mais il faudra, dit-il, que le dialogue soit ouvert et loyal. Et il répète, la retraite à 65 ans, c'est niette, je le cite, bien sûr. Allez, ce soir dans le MacPol, on va aussi prendre des nouvelles d'un revenant, même s'il ne s'est pas absenté bien longtemps. Ce revenant, c'est Xavier Bertrand qui a fondé hier son nouveau parti baptisé Nous France, avec clairement déjà 2027 en ligne de mire, et tout cela au moment aussi où la droite, LR, se cherche un nouveau chef. Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
Alors vous étiez chez Xavier Bertrand à Saint-Quentin dans l'Aisne hier. Tout d'abord, dites-nous rapidement, Il me semblait bien que Xavier Bertrand, après sa défaite à la primaire des Républicains, avait juré, promis que la politique nationale, c'était fini pour lui.
Oui, et vous l'avez cru. Bon, ben là-dessus, pas d'explication, pas de mea culpa particulier hier, juste un petit mot.
Oui, j'ai toujours la même énergie. J'ai toujours envie de porter mes idées.
Voilà, et on passe à autre chose. Mais chez Xavier Bertrand, la nouveauté a quand même un énorme goût de déjà-vu. Il avait créé une sorte de club de réflexion avant de se lancer vers 2022. Là, il crée un parti plus classique en visant 2027. Malgré les difficultés, malgré les défaites, c'est une ambition qui ne l'a pas quitté.
Bon, alors William, avec quel projet, quel programme pour Xavier Bertrand ?
Bon, pour l'instant, ça ressemble beaucoup à son projet pour 2022. Il y a un an, il nous vendait sa République des territoires. Hier, il nous a parlé de...
Cela s'appelle une nouvelle République, qui sera la République des territoires.
L'an passé, il avait aussi axé son projet sur le pouvoir d'achat, sur les classes moyennes. Là non plus, on n'a pas été surpris.
Nous faisons des classes moyennes une priorité d'action.
Comme si le pari de Xavier Bertrand, c'était que ce qui n'a pas marché hier, ce qui ne lui a pas permis d'être désigné leader de la droite, pouvait fonctionner demain et pouvait le faire gagner.
Oui, et justement, cette droite, William, les Républicains, vous l'avez dit, se cherchent en ce moment un nouveau patron. On imagine que ce n'est pas un hasard si Xavier Bertrand choisit justement ce moment pour refaire parler de lui, hein.
Oui, évidemment oui. Alors figurez-vous que Xavier Bertrand est toujours officiellement adhérent des Républicains, mais enfin clairement, créer cette nouvelle structure comme il le fait, c'est une façon de dire « bon, votre machin ne marche plus, il faut quelque chose de neuf ». Et hier, il a envoyé des messages pas vraiment subliminaux à Laurent Wauquiez, à Éric Ciotti notamment, sur le thème « arrêtons les clins d'œil à l'extrême droite, ça nous a coûté assez cher comme ça ».
On écoute les sirènes de l'extrême droite et on finit par s'échouer sur les berges de l'échec. Parce que c'est cela aussi, l'une des raisons de notre échec à la dernière présidentielle. Nous, France, dit clairement non, aujourd'hui comme demain, à toute idée mortelle de l'union de la droite et de l'extrême droite.
On comprend deux choses. D'abord que Xavier Bertrand espère récupérer les déçus des Républicains. Et puis voilà, on joue aussi déjà des coudes à droite pour 2027. C'est dans 4 ans et demi. Ainsi va la vie politique française. Et avec son parti Nous France, Xavier Bertrand vient déjà d'abattre une partie de ses cartes.
Merci William Galibert. Allez, on termine ce MacPol avec l'agenda de la semaine. Toujours avec vous Marie-Pierre Haddad. Rebonsoir.
Rebonsoir.
Alors
lundi, c'est la rentrée du Parlement. Vous en avez déjà parlé. Mardi, les députés de la majorité présidentielle, donc Renaissance, Modem et Horizon, tiennent leur première réunion d'intergroupe. Ils sont un peu attendus au tournant sur leur capacité à constituer un front uni dans l'hémicycle, alors que chacun revendique sa liberté de penser et donc de voter. Toujours mardi, le Parti Socialiste organise son Conseil National et une frange du PS commence déjà à se positionner pour pousser pour une ligne socialiste qui se trouve entre les socialistes pro-NUPES et entre les socialistes pro-PS, si on peut les appeler comme ça. Mercredi, les fournisseurs d'énergie, eux, se réunissent à Bercy pour garantir des prix raisonnables aux PME. Vous savez, ça fait directement écho aux propos d'Emmanuel Macron qui avait demandé justement aux petites entreprises de ne pas signer des contrats d'électricité à des prix fous. C'était ce qu'il avait dit. Et jeudi, je termine rapidement avec trois informations à retenir dans l'agenda. Le Rassemblement National fête ses 50 ans, mais ça se fera sans le cofondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen. Deuxième information, c'est la niche parlementaire des députés Modem, et ils s'attaquent à un sujet très concernant pour les Français, vous savez, avec une proposition de loi pour lutter contre les arnaques au compte personnel de formation, le CPF. Et troisième info, Nicolas Sarkozy et François Hollande vont débattre sur l'utilité de réformer ou non nos institutions politiques. Ça va être tout un sujet.
Eh ben, on suivra ça de très près. Merci Marie-Pierre Haddad, merci d'avoir écouté ce MacPol. Restez avec nous, évidemment Alain Bougrain-Dubourg, piaf d'impatience. C'est le cas de le dire à son sujet. Il va refaire la planète.
RTL.
On refait la planète.
On refait la planète.
Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
On refait la planète sur RTL tous les dimanches soirs. On la refait, cette planète, grâce à Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain.
Bonsoir Vincent.
Et alors, à chaque émission, on écoute en ouverture un son mystérieux de la nature à découvrir. Et vous nous donnez un petit indice.
Alors aujourd'hui, c'est... On le surnomme le clown de mer. C'est franchement très facile.
Alors, le clown de mer. On l'écoute, le clown de mer ? C'est une tronçonneuse.
Non, c'est pas la déforestation. Non, je le confirme bien, c'est le clown de mer.
Eh ben, le clown de mer, on découvrira exactement son espèce tout à l'heure, à la fin de l'émission.
On refait la planète sur RTL.
Alors Alain, en ce dimanche 2 octobre, on se projette un petit peu, puisque du 12 au 16 octobre, Lorient va accueillir le festival Les Aventuriers de la Mer. L'objectif n'est pas d'ailleurs de partir à l'aventure en mer, mais plutôt de trouver des solutions, des innovations capables de faire face, eh bien, aux défis climatiques et sociaux.
Oui, alors c'est la 7e édition, il faut le dire, ouais, qui réunit évidemment des scientifiques, des explorateurs, des navigateurs, des ingénieurs et puis bien sûr le grand public pour tenter de mieux cohabiter avec la mer, comme l'explique Sonia Lassène, qui est la fondatrice de ce festival.
C'est vraiment un festival qui nous montre qu'on peut encore faire de nombreuses choses et qu'il y a encore un vaste océan de possibilités et de cette manière réenchante notre monde et nous redonne de l'espoir.
Voilà, bon, ce sont les grands principes, ouais, là, évidemment. Alain, on peut aller un petit peu plus loin.
Oui, la particularité, c'est que les aventuriers de la mer ont pour vocation d'aider des initiatives en faveur de la mer. Un exemple, ouais, celui d'InEurope.
InEurope, c'est une solution d'ancrage pour les bateaux. Alors, quand vous avez un bateau et que vous voulez qu'il soit en sécurité, vous lancez une ancre. Mais les ancres abîment souvent les fonds marins quand il y a des écosystèmes, comme des herbiers, par exemple. Et cette entreprise a trouvé une solution faite de cordage. C'est un système qui est simple, bien pensé, et ils ont besoin vraiment de se faire connaître. Et donc, voilà, on a apporté ce coup de pouce pour que cette entreprise se développe et puisse aller vers des solutions plus vertueuses en mer.
Je crois qu'il y a un autre exemple.
Oui, celui de Surf Mycelium. C'est très étonnant.
C'est un jeune homme qui travaillait vraiment dans son garage et qui a eu l'idée d'utiliser les rhizomes de champignons, qui est une matière souple et solide à la fois, pour en faire un matériau écologique pour faire des planches de surf. Donc Surf Mycelium. Il y a eu un coup de cœur du jury pour l'accompagner et mettre en place ce projet un peu fou.
Ah oui, un peu fou, je confirme. Des planches de surf sympa, en champignons. Oui, oui, c'est sympa. Je pense que c'est sympa. Il faut savoir si ça fonctionne bien sur les vagues après. Voilà, donc Sonia Lassaigne, la fondatrice de ce festival Les Aventuriers de la Mer, du 12 au 16 octobre à Lorient. Alain, tout autre chose maintenant, parce que là on va parler transition énergétique. Il y a un calendrier d'obligation pour limiter les passoires thermiques qui a été établi par le ministère de la Transition écologique. Est-ce qu'on y voit maintenant plus clair?
Bon, à vrai dire, Vincent, ça reste quand même très complexe. Ouais. Alors, il faut rappeler qu'un DPE, un diagnostic de performance énergétique, renseigne sur l'état des bâtiments à partir de catégories allant de A à G. F et G étant les habitations les moins performantes. Et puis, ça représente quand même, ces dernières habitations, plus de 5 millions de biens dont le gel du loyer est acté depuis août dernier.
D'autres contraintes, d'ailleurs, sont attendues pour janvier.
Oui, interdiction de louer des logements consommant plus de 450 kWh au mètre carré par an. Ouais. En 2023, on poursuit avec un audit énergétique obligatoire pour la vente de maisons individuelles ou des immeubles. Des textes plus contraignants sont prévus en 2025, en 2028 et en 2034. Bon, on n'en finit pas.
Oui, on n'en finit pas, mais on peut dire que là, du coup, il n'y aura plus de passoire thermique, comme on dit.
Ben, c'est pas évident, Vincent. Le coût est élevé. Ouais. La rénovation d'un logement coûte environ 25 000 euros, 70 000 pour une maison individuelle. Bon, on aura peut-être l'occasion de parler quand même des aides qui peuvent en partie compenser cette démarche.
Eh bien, cette émission est là pour ça et ça sera une occasion de le faire dans les prochaines semaines.
On refait la planète sur RTL.
Alain, comme chaque dimanche, vous nous parlez d'un événement à ne pas manquer. Vous nous emmenez à Nantes. Hein.
Oui, au Muséum d'Histoire Naturelle qui propose une plongée insolite dans son exposition Océan. Alors naturellement, il est question de faire un état des lieux conduisant jusqu'aux grandes profondeurs à la découverte d'espèces improbables. Mais le voyage invite aussi à l'imaginaire, avec notamment la collaboration du posthume Jules Verne. Ah oui. Il y aura des conférences, des animations pour les enfants, bon, des dispositifs interactifs qui permettront de s'immerger dans cette étonnante exposition. On a le temps, c'est jusqu'au 8 janvier.
Au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Alors là, on arrive au terme de l'émission. On réécoute ce son mystérieux de la nature que l'on doit découvrir. C'est vrai qu'il y a un petit bruit de tronçonneux, c'était pas ça du tout.
Non, on part en Bretagne, c'est le macaremoine.
C'est pour ça que vous nous aviez dit le clown des mers, à cause des couleurs autour du bec, c'est ça ?
Du bec, on le surnomme ainsi, et il m'est très cher parce qu'il incarne la LPO, la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
C'est l'emblème de la LPO.
Voilà, et il faut savoir, Vincent, qu'au début du siècle dernier, on massacrait ces macareux par milliers.
Pourquoi donc ?
Ben pour le plaisir de tirer. Il y avait des safaris qui partaient de Paris, qui allaient jusqu'à Perros-Guirec, qui désinguaient ces pauvres oiseaux. Et il y a une poignée d'amis des oiseaux qui s'est constituée pour demander l'arrêt du massacre et la création d'une réserve qui existe toujours, gérée par la LPO, la réserve des Sept Îles.
Donc c'est un animal protégé maintenant.
Intégralement protégé.
Le macareux, l'emblème de la LPO qui vous est évidemment si cher. Merci Alain Beaugrain-Dubourg, à dimanche.
Bonsoir, merci Vincent. We'll be right back.
On refait la planète sur RTL.
Et dans un court instant, le journal.
RTL. RTL.
Et avec un peu de retard, le journal de 19h.
18h, 19h15, RTL dimanche soir.
Avec Vincent Parisot.
Et Nathan Bocard pour ses infos. Bonsoir Nathan.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
À la une, un Brésil fracturé, convoqué aux urnes aujourd'hui.
Les Brésiliens plus divisés que jamais. Un deuxième mandat Bolsonaro ou le retour 11 ans après de Lula. Un reportage à Rio dans ce journal. L'imam Iqiyoussen refuse d'être renvoyé en France. Une lutte judiciaire s'engage. Et puis on fera un tour bien sûr sur les pelouses de Ligue 1. Tous les résultats de la 9e journée de championnat dès la fin de ce journal.
Et à 19h15, ce sera On refait le sport comme chaque dimanche soir avec vous Isabelle Langer, bonsoir.
Bonsoir.
Émission spéciale consacrée à Octobre Rose.
Oui, Christelle Gauzet, ancienne gagnante de Koh-Lanta, créatrice des raids des fidèles, Valérie Trierweiler qui est très engagée dans la lutte contre le cancer du sein et le témoignage d'Aïcha Toumi, 44 ans, qui a découvert sa tumeur grâce à l'autopalpation il y a 4 mois. Beaucoup d'invités, ça va être riche.
Tout à l'heure Isabelle.
Et puis un coup d'œil sur la météo pour demain, Valérie Quintin, vous nous rapportez s'il vous plaît enfin des bonnes nouvelles.
Il va faire beau demain, mais pas forcément dès le lever du jour. Déjà parce qu'il y aura de nombreux brouillards sur les deux tiers nord du territoire. Et puis il fera un petit peu frais demain matin. 6 degrés à Lille au réveil, 8 à Nancy, 9 à Limoges. Ensuite, place au soleil, évidemment, bien avant la fin de la matinée. On aura une petite incursion nuageuse sur le nord-ouest. Ça pourrait aller jusqu'à l'averse dans l'après-midi vers la pointe bretonne. Et donc le ciel sera un petit peu mitigé entre la Normandie et les Pays de Loire. Pour tous les autres, du plein soleil et des températures presque printanières, j'ai envie de dire. Avec 18 degrés à Mulhouse dans l'après-midi, 19 au Havre, 20 degrés à Paris, 22 au Mans, 23 à Grenoble, 25 degrés pour Agen et Marseille et même 27 degrés à Montpellier.
Merci beaucoup Valérie.
RTL dimanche soir.
Alors le Brésil va-t-il tourner la page Bolsonaro? 156 millions d'électeurs sont convoqués aux urnes aujourd'hui.
Le premier tour de l'élection présidentielle oppose donc le chef d'État sortant d'extrême droite à l'ancien président de gauche Lula. Ce dernier est d'ailleurs le grand favori des sondages. Il pourrait même l'emporter dès le premier tour. C'est un scrutin sous haute tension en forme de fracture entre deux Brésils radicalement opposés. Sarah Cozzolino.
Des hélicoptères survolent le quartier militaire où Jair Bolsonaro vote ce matin.
Il arrive.
Michelle est venue avec son mari pour soutenir le président. Elle est persuadée qu'il l'emportera au premier tour.
Beaucoup de gens veulent sa réélection, donc il passera, c'est sûr.
Dans le quartier chic de Lagoa, les fervents soutiens de Jair Bolsonaro vont voter en jaune et vert. Marcos a noué autour de son cou un drapeau brésilien qui descend jusqu'aux chevilles.
Je suis habillé aux couleurs du drapeau brésilien, un drapeau qui a été sali pendant de nombreuses années. Mais le président l'a sauvé. Et aujourd'hui, les Brésiliens sont fiers de brandir leur drapeau, de se montrer patriote.
Arthur, lui, sort du même bureau de vote. T-shirt blanc et chaussures rouges, il est plus discret, mais porte quand même un autocollant de son candidat Lula.
Cette élection est marquée par une peur de prendre position. J'espère qu'il y aura un vrai changement politique. On n'en peut plus de toutes ces disputes. C'est une ambiance assez difficile, donc je vote pour le changement.
Cette élection sous haute tension inquiète les Brésiliens. Dans les deux camps, ils disent préférer suivre les résultats depuis chez eux plutôt que de descendre dans la rue.
Le reportage de Sarah Cozzolino, correspondante RTL au Brésil, où les résultats seront connus vers 22h.
Évidemment, ils seront largement commentés sur RTL demain avec la matinale.
Et puis on l'apprend, il y a quelques instants, le président du Burkina Faso démissionne. Paul-Henri Damiba quitte le pouvoir ce soir après les débordements et les violences contre l'ambassade et la base militaire française. Dans un communiqué, le président déclare vouloir éviter des conséquences humaines et matérielles graves.
Ça fait maintenant 2 jours que l'imam Iqiyoussen est derrière les barreaux en Belgique et la France attend maintenant son transfert.
Arrêté vendredi, le prédicateur marocain avait fui la France pour échapper à son extradition. Il y est accusé de propos misogynes, homophobes et antisémites. RTL, vous l'apprenez ce matin, l'imam a bien l'intention de rester en Belgique. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
Chef du service police-justice de RTL, Hassan Iqiyoussen s'oppose donc à sa remise aux autorités françaises.
Absolument, l'intéressé a d'ores et déjà indiqué à la justice belge qu'il refusait sa remise à la France. C'est un de ses proches qui le confirme à RTL. Hassan Iqiyoussen en a le droit, c'est une possibilité prévue par le mécanisme du mandat d'arrêt européen. Conséquence, des magistrats belges vont examiner ses arguments au cours d'une première audience qui devrait avoir lieu ces prochains jours. L'imam marocain né et résident en France jusqu'au mois dernier souhaite s'installer en Belgique, c'est ce que nous a indiqué une source proche du dossier. Par ailleurs, son avocate a soulevé à plusieurs reprises reprises un point de droit important. Selon elle, on ne peut pas reprocher à Hassan Iqiyoussen de s'être soustrait à son arrêté d'expulsion puisqu'il a quitté la France avant même de le recevoir fin août. Les juges belges ont 15 jours pour rendre leur décision. Il y aura ensuite plusieurs possibilités d'appel, mais la Belgique a 2 mois au maximum pour dire si elle remet l'imam contesté à la France. La question de son expulsion du territoire national reviendra alors à son point de départ.
Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL.
À Marseille, un homme de 21 ans abattu en pleine rue. Cela s'est passé en fin de soirée hier. Deux personnes en scooter ont tiré au fusil d'assaut. La victime est morte quelques instants plus tard. Deux autres personnes ont été blessées dans ce qui ressemble à un règlement de compte.
Et puis en Indonésie, on en parle depuis ce matin, l'un des pires drames jamais survenus dans un stade. 125 morts, des dizaines de blessés dans un mouvement de foule.
À l'issue d'un match de foot, des milliers de supporters ont envahi le terrain. Pour les disperser, la police a fait usage de gaz lacrymogène, panique, bousculade, monstre, de nombreuses personnes piétinées et asphyxiées. Les autorités parlent d'une situation anarchique. Le président de la FIFA déplore, lui, une tragédie au-delà de l'imaginable.
Et puis, on marque maintenant une courte pause avant de vous faire découvrir, comme on vous l'avait annoncé dans le journal de 18h, le dernier épisode de notre série 7 jours, 7 reportages consacrés au pouvoir d'achat des Français. On va aller chez le coiffeur.
RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
Le pouvoir d'achat, préoccupation essentielle des Français en ce moment. On en a parlé toute la semaine sur RTL et le dernier épisode, c'est maintenant.
RTL, 7 jours, 7 reportages.
Depuis lundi, notre reporter Nerissa Emani arpente la zone commerciale de Saint-Maximin dans l'Oise. Et aujourd'hui, elle laisse traîner son micro dans un salon de coiffure, car figurez-vous, là aussi, le pouvoir d'achat est au centre des débats.
Oui, depuis quelques mois, le sujet de discussion numéro un dans le salon de Sabrina, c'est...
Tout ce qui est inflation, l'essence, les gens, tout ça, ils en ont marre, donc forcément, ils en parlent toujours un peu.
Sur le fauteuil rouge, prête à se faire coiffer, Martine acquiesce.
Oui, bien sûr, mon budget a baissé aussi. Mais bon, ma couleur, c'est important pour moi. Oui, pour me sentir bien, pour l'image aussi. Je suis vendeuse.
Martine fait partie des habituées, mais elles se font de plus en plus rares.
Oui, parce qu'effectivement, elles ne viennent plus comme elles venaient avant tous les mois, elles viennent tous les 1 mois et demi, 2 mois. Le budget a changé. Là, aujourd'hui, oui, on devait avoir pas mal de monde cet après-midi. Et finalement, les 3/4 des rendez-vous se sont annulés. Puis c'est vrai que les gens, ils ont d'autres priorités maintenant.
Et d'ailleurs, devant la vitrine de la coiffeuse, une ancienne cliente passe sans même jeter un coup d'œil.
J'y vais plus du tout, j'y vais peut-être 2 fois par an, juste pour me faire un soin et couper les cheveux, c'est tout. Et avant, j'y allais tous les 2-3 mois, tout le temps. Et maintenant, je me dis, en fait, à la fin du mois, ici, il me reste des sous, je vais les mettre de côté. Ouais, mais pas pour le coiffeur, c'est pas important en soi.
Pourtant, dans ce salon, les prix n'ont pas changé depuis 2 ans. Ils sont même parmi les plus bas de la zone commerciale.
Voilà, reportage signé Nerissa Emani. Reportage et série, hein, 7 jours 7 reportages signé Nerissa Emani pour RTL.
Suite et fin ce dimanche de la 9e journée de Ligue 1 et c'est Lorient qui a ouvert le bal en s'imposant 2-1 face à Lille. Cet après-midi, Ajaccio s'incline à domicile face à Clermont 3-1. Match nul entre Auxerre et Brest 1-1 et entre Troyes et Reims 2-2. Toulouse a dominé Montpellier au Stadium 4-2 et puis Monaco recevait Nantes. Michael Lefebvre, vous avez assisté à la rencontre au stade Louis II et donc Michael, un festival de buts.
Effectivement, 4-1 pour l'AS Monaco face au Nantais, un triplé de Wissam Ben Yedder et un but d'Embolo contre un but de Caio Henrique contre son camp pour les Nantais. Les Monégasques enchaînent une 4e victoire consécutive et sont 5e au classement. Nantes reste scotché à la 16e place.
Merci Michael. Et puis l'affiche ce soir, Lyon se déplace à Lens, match à suivre avec toute l'équipe d'Éric Silvestro dans RTL Foot à partir de 20h. La Formule 1, Verstappen va encore devoir attendre un peu pour être champion du monde.
Et oui, car le Néerlandais avait aujourd'hui sa première chance de décrocher un 2e titre au Grand Prix de Singapour. Raté, c'est son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez, qui s'impose. Podium complété par les Ferrari de Leclerc et Sainz. Verstappen ne termine que 7e, mais reste leader en classement. Côté français, Pierre Gasly finit 10e. Esteban Ocon abandonne après une casse moteur.
Merci beaucoup Nathan Bocard et bonsoir Isabelle Langer.
Bonsoir.
Au programme, évidemment, on l'a dit, Octobre Rose.
La F1, la moto, hein, comme vient de dire Nathan aussi, effectivement, Octobre Rose pour parler lutte, détection et prévention contre le cancer du sein. Car vous le savez, l'activité physique permettrait d'éviter 10 à 12 000 nouveaux cas par an.
Passez une très belle soirée. Restez avec nous. À tout de suite.
RTL, vivre ensemble.